En 1843 ou en 1844, alors qu'il habite l'hôtel Pimodan, Baudelaire revient sur cette lecture du roman de Sainte-Beuve, Volupté, qu'il a révélé à lui-même. Il adresse un poème à Sainte-Beuve, précédé de cette lettre. « Monsieur, Stendhal a dit quelque part ceci, ou à peu près, j'écris pour une dizaine d'âmes que je ne verrai peut-être jamais, mais que j'adore sans les avoir vues. Ces paroles, monsieur, ne sont-elles pas une excellente excuse pour les importuns, et n'est-il pas clair que tout écrivain est responsable des sympathies qu'il éveille? Ces vers ont été faits pour vous, et si naïvement, que lorsqu'ils furent achevés, je me suis demandé s'ils ne ressemblaient pas à une impertinence, et si la personne louée n'avait pas le droit de s'offenser de l'éloge. J'attends que vous daigniez m'en dire votre avis. »
Qui de nous, en ces temps d'adolescence pâle, n'a connu la torpeur des fatigues claustrales, l'œil perdu dans l'azur morne d'un ciel d'été, ou l'éblouissement de la neige? Gaieté, l'oreille avide et droite, et bu comme une meute, l'écho lointain d'un livre ou le cri d'une émeute. C'était surtout l'été, quand les plombs se fondaient, que ces grands murs, noircis et tristes, abondaient. Lorsque la canicule ou le fumeux automne irradiait les cieux de son feu monotone et faisait sommeiller dans les sveltes donjons les tierces laits criards et froids des blancs pigeons. Saison de rêverie, où la muse s'accroche pendant un jour entier au battant d'une cloche, où la mélancolie, à midi, quand tout dort, le menton dans la main au fond du corridor, l'œil plus noir et plus bleu que la religieuse, dont chacun sait l'histoire obscène et douloureuse, traîne un pied alourdi de précoces ennuis, et son front moite encore des langueurs de ces nuits. Et puis venaient les soirs malsains, les nuits fiévreuses qui rendent de leur corps les filles amoureuses et les font au miroir, stériles voluptés, contempler les fruits mûrs de leur nubilité, les soirs italiens de molle insouciance, qui des plaisirs menteurs révèlent la science. Quand la sombre Vénus, du haut des balcons noirs, verse des flots de musc de ses fraises encensoires. Ce fut dans ce conflit de molles circonstances, mûri par vos sonnets, préparé par vos stances, qu'un soir, ayant flairé le livre et son esprit, j'emportais sur mon cœur l'histoire d'Amaury. Tout abîme mystique est à deux pas du doute. Le breuvage infiltré, lentement, goutte à goutte, en moi, qui, dès 15 ans, vers le gouffre entraîné, déchiffrait couramment les soupirs de René, et que, de l'inconnu, la soif bizarre altère, a travaillé le fond de la plus mince artère. J'en ai tout absorbé, les miasmes, les parfums, le doux chuchotement des souvenirs défunts, les longs enlacements des phrases symboliques, chapelet murmurant de madrigaux mystiques, livre voluptueux si jamais il en fut. Et depuis, soit au fond d'un asile touffu, soit que, sous les soleils des zones différentes, l'éternel bercement des houles enivrantes et l'aspect renaissant des horizons sans fin ramenassent ce cœur vers le songe divin, soit dans les lourds loisirs d'un jour caniculaire, ou dans l'oisiveté frileuse de frimaire, sous les flots du tabac qui masque le plafond, j'ai partout feuilleté le mystère profond de ce livre, si cher aux âmes engourdies, que leur destin marqua des mêmes maladies. Et devant le miroir, j'ai perfectionné l'art cruel qu'un démon en naissant m'a donné, de la douleur pour faire une volupté vraie, d'ensanglanter son mal et de gratter sa plaie. Poète, est-ce une injure ou bien un compliment? Car je suis vis-à-vis de vous comme un amant en face du fantôme, au geste plein d'amorce, dont la main et dont l'œil ont pour pomper les forces des charmes inconnus. Tous les êtres aimés sont des vases de fiel qu'on boit les yeux fermés, et le cœur transpercé que la douleur allèche expire chaque jour en bénissant sa flèche.
Le 18 avril 1839, le proviseur du collège Louis-le-Grand fait savoir au colonel Aupic.
Monsieur, ce matin, monsieur, votre fils, sommé par le sous-directeur de remettre un billet qu'un de ses camarades venait de lui glisser, refusa de le donner, le mit en morceaux et l'avala. Mandé chez moi, il me déclara qu'il aime mieux toute punition que de livrer le secret de son camarade, et pressé de s'expliquer, dans l'intérêt même de cet ami qu'il laisse exposer aux soupçons les plus fâcheux, il me répond par des ricanements dont je ne dois pas souffrir l'impertinence. Je vous renvoie donc ce jeune homme, qui était doué de moyens assez remarquables, mais qui a tout gâté par un très mauvais esprit, dont le bon ordre du collège a eu plus d'une fois à souffrir.
Renvoyé du collège, Charles est confié à un répétiteur, le futur aliéniste Charles Lassègue, qui vit chez ses parents. Et Charles écrit à sa mère:
comme c'est différent d'être chez des étrangers. Et ce ne sont pas précisément tes caresses et nourrir que je regrette. C'est je ne sais quoi qui fait que notre mère nous paraît toujours la meilleure des femmes. Que ses qualités nous conviennent mieux que les qualités des autres femmes. Il y a un tel accord entre une mère et son fils. Ils vivent si bien l'un à côté de l'autre. De sorte que ma foi, depuis que je suis chez Monsieur Lassègue, je suis mal à mon aise. Je ne veux pas que tu croies que c'est mon amour-propre vexé, parce que Monsieur Lassègue m'a constamment persécuté, et que Madame Lassègue s'en est aussi un peu mêlée. Quant à cela, je l'en remercie de tout mon cœur. C'est bien une preuve de sa bienveillance. Cela me forme. J'en suis content. Aussi n'est-ce point là ce qui me fatigue. C'est qu'il me manque là ce que j'aime. Un esprit fait comme je l'aime, celui de ma mère ou celui de mon ami Monsieur Aupic. Certes, Monsieur Lassègue, certes, sa mère aussi sont ornées de toutes sortes de belles qualités. Sagesse, amour, bon sens. Eh bien, tout cela se développe sous une forme que je n'aime pas. Il y a des trivialités qui me repoussent un peu. J'aime mieux que cela se développe capricieusement et plus vivement, comme chez toi et mon ami. C'est dans cette maison-ci une gaieté perpétuelle, cela m'ennuie. Certes, ils sont plus heureux que nous. Chez toi, j'ai vu des pleurs, des tracasseries pour mon père, des attaques de nerfs pour toi. Eh bien, je nous aime mieux ainsi. Et quand je sens en moi quelque chose qui me soulève, que sais-je, un violent désir de tout embrasser, une peur de ne pas savoir acquérir de l'instruction, des craintes de la vie, ou bien simplement un beau couchant à la fenêtre, à qui le dire? Tu n'es pas là, et mon ami de cœur non plus. Aussi, qu'est-il arrivé? C'est que je suis pire que je n'étais au collège. Au collège, je m'occupais peu de la classe, mais enfin, je m'occupais. Quand j'ai été renvoyée, cela m'a secouée. je me suis encore un peu occupée chez toi. Maintenant, rien. Rien, et ce n'est pas une indolence agréable, poétique, non pas. C'est une indolence maussade et niaise. Je n'ai pas osé le dire complètement à mon ami, ni me montrer à lui dans tout mon lait, car il m'eût trouvé trop changé. Il m'a vu en beau. Au collège, je travaillais de temps en temps. Je lisais, je pleurais. Je me mettais quelquefois en colère. Mais au moins, je vivais. Maintenant, point. Aussi bas qu'on peut l'être. Des défauts à foison. Et ce ne sont plus des défauts agréables. Si au moins cette vue pénible me poussait à changer violemment. Mais non. De cet esprit d'activité qui me poussait tantôt vers le bon, tantôt vers le mauvais, il ne reste rien. Rien qu'indolence, maussaderie, ennui.
En août 1839, Charles manda au pic.
Je viens de voir une bonne nouvelle et j'en ai une bonne à t'annoncer. J'ai lu ce matin ta nomination dans le Moniteur et je suis bachelier depuis hier au soir. Mon examen a été assez médiocre, excepté le latin et le grec, fort bien, c'est ce qui m'a sauvé. Je suis bien heureux de ta nomination. De fils à père, ce ne sont pas des félicitations banales comme toutes celles que tu recevras. Moi, je suis heureux parce que je t'ai vu assez souvent pour savoir combien cela t'était dû. J'ai l'air de faire l'homme et de te féliciter comme si j'étais ton égal ou ton supérieur.
Claude Alphonse reçoit cette lettre de Charles.
Je m'ennuie tellement que je vais me mettre à travailler. Je veux un plaisir quelconque et j'espère en trouver là. Je veux être indépendant le plus tôt possible, c'est-à-dire dépenser mon argent, celui que les hommes m'auront donné en retour d'un plaisir ou d'un service que je leur aurai procuré, et j'y veux parvenir par quelque moyen que ce soit. En attendant,
puisque c'est ton argent que je dépense, reçois bien mes remerciements. J'ai payé mes drogues, je n'ai plus de courbatures, presque plus de maux de tête. Je dors beaucoup mieux, mais j'ai des digestions détestables et un petit écoulement continuel sans aucune douleur. Avec cela, un teint magnifique, ce qui fait que personne ne se doute de la chose. Je vais plonger dans la science maintenant. Je vais tout reprendre. Droit, histoire, mathématiques, littérature. Je vais oublier dans Virgile toutes les mesquineries et les saletés de ce monde. Au moins, cela ne coûte rien et ne donne pas de courbature.
En 1843, Ernest Praron évoque la femme qui... Avaria Baudelaire.
Vous aviez l'esprit tendre et le cœur vertueux, tous les biens convoités d'une amitié naïve. Lorsqu'une femme, belle et de naissance juive, vous conduisit au fond d'un couloir tortueux, elle vous fit couler d'un doigt voluptueux la source des plaisirs aux égouts de Ninive. Elle vous fit toucher sur sa chair toute vive du vice et de l'amour les secrets monstrueux. Elle eut enivré Lot au fond d'une caverne, tenu comme Judith le sabre de l'Opherne et frappé du marteau le front de Sisara. Et, tétant au plaisir vos tristesses infimes, de ce sein que le vice et l'amour déflora, vous avez fait couler vos funèbres maximes.
Thank you. À Claude Alphonse, Charles demande, le 21 janvier 1841, de subvenir à ses besoins.
Voici très exactement le compte de mes dettes. Cela monte beaucoup plus haut que je l'avais cru, mais toutes ne sont pas également pressées. 200 francs restent d'un ancien mémoire de tailleur. Très pressé. Je crois que cet homme en a besoin et cette dette me chagrine. Elle est déjà très vieille. 100 francs à un cordonnier, 60 à un autre, 215 à M. Ducessois. Je tiens à payer cette dette moi-même. Plus tard, je veux qu'il croie que c'est moi qui le paie. Je le lui ai promis, il ne veut pas subir l'humiliation de manquer à ma parole. 200 francs à de la Genevraie, un de mes camarades, vieille dette consacrée à habiller une fille enlevée dans une maison. 180 francs ou même, sans doute, pour payer ailleurs une dette pressée. 50 à Sorgeon, un de mes amis, pour le même motif, pressé. 300 francs au bonnetier, chemisier et gantier. Voici maintenant le compte de mon tailleur. Deux habits, l'un négligé, 125, l'autre habillé, 110. Paletot ouaté, 170. Robe de chambre ouatée, 110. Quatre pantalons, 200. Trois gilets, 120. Un petit manteau. Depuis qu'il travaille pour moi, je ne lui ai donné que 200 francs à déduire du compte ci-dessus. Tous ces chiffres ne sont que des à peu près. Dans tout cela, il n'y a pas un mensonge ni un chiffre chargé à dessein. Je serais bien aise de donner quelque argent à mon tailleur. Je le soupçonne de me négliger.
Ces comptes fantastiques se montent à plus de 2000 francs, exception faite du petit manteau. C'est le traitement annuel d'un fonctionnaire moyen. Alors, la famille réagit. Claude Alphonse, en particulier, dont la conscience fragile de magistrat médiocre est toujours prête à s'alarmer.
C'est un chiffre énorme. Et tout n'y est pas, sans doute. Tu comprends que moi, ton frère aîné, je ne puis te faire de cadeau. Que si j'ai quelque aisance, je la dois aux soins que j'ai mis à ne pas manger mon patrimoine, et que quand je ne puis gagner par un travail assidu de 8 heures par jour, qui m'a coûté 15 années d'études, que 1 500 francs, je ne puis donner à mon frère 2 370 francs pour payer ses folies, ses maîtresses, ses sottises en un mot. Je t'ai dit que j'avais pour le général Aupic la plus profonde estime, qu'il t'a élevé comme son fils, que tu es un ingrat envers lui. Pour moi, je serais d'avis, si tu es résolu à te bien conduire, de lui faire l'aveu entier de tes torts. Je t'offre, pour t'éviter la honte, l'humiliation que tu éprouverais, de me charger de te lui raconter. J'ajoute que, comme il pourrait se plaindre d'avoir à payer pour toi, je contracterai dans ce cas seulement l'obligation de réunir tes créanciers. Je te les ferai payer en empruntant sur ce qui t'appartient. Mais qu'autrement, comme je ne suis ni un frère de comédie, ni un homme dont on peut se rire en l'abusant, je t'abandonnerai à tous les ennuis des dettes et aux suites qu'elles peuvent avoir.
Tu m'as écrit une lettre dure et humiliante. Je veux payer moi-même ce que je dois à mes connaissances. Quant aux fournisseurs, comme je ne puis pas m'en tirer tout seul, je te supplie d'en payer deux très pressés. Ceci est la 7e lettre que je t'écris. J'ai déchiré les 6 premières les unes après les autres et j'ai enfin pris le parti de payer moi-même ce que je dois. Seulement, ce sera lent. Je te renvoie ton livre que j'ai lu, où il y a quelques fadaises. Je t'embrasse. Et je suis inquiet.
2 mois plus tard, en avril 1841, Charles, par volonté familiale, s'embarque à Bordeaux, sur le paquebot des mers du Sud.
Mon cher Charles, j'ai reçu ton petit mot par lequel tu m'annonces un prochain départ. Tu me dis que l'on a trouvé que tu menais une mauvaise vie à Paris. J'ai en effet peu de compliments à te faire sur cette partie de ton existence. Tu présentais à ta sortie de collège l'aspect d'un jeune homme accompli. Nos plus chères espérances, celles de te voir devenir un homme de mérite et de te voir faire un beau chemin, commençaient à s'accomplir. Il a fallu que tu fusses arrêté par une mauvaise camaraderie. Devenu jeune homme, tu n'as pas cru que l'affection du général te fût sincère. Tu t'es laissé entraîner par des amis que tu fréquentais, que tu n'osais produire à raison de leur tenue et de leur goût. Enfant, tu étais d'un commerce charmant. Jeune homme, tu es devenu difficile, soupçonneux, toujours prêt à te rebeller quand on ne voulait que t'imposer un frein salutaire. Tes camarades t'ont conduit chez des femmes. Et tu as cru que ces femmes, parce qu'elles avaient le tort de céder à de la misère et au désir du libertinage, devaient être des modèles de la vie dans l'état de liberté. Tu t'es endetté pour soutenir, nourrir, vêtir quelques drôlesses, expression dont tu t'es servi et qui me paraît fort juste. Tu as changé cet enfant plein d'espérance en un jeune homme exalté, ne vivant que pour un jour, sans songer au lendemain, brisant tous les liens de société, rompant avec les mœurs, avec les usages. Tu t'es constitué en état d'hostilité avec ceux qui, te paraissant plus âgés, ne pouvaient voir ta manière de vivre du même point de vue que toi. Aujourd'hui, tu reconnais ton erreur. Tu comprends que ta mère, que le général, que ton frère t'aiment, que pour eux ta conduite devait être une cause d'affliction. Tu vas en changer. Je voudrais à ta place rejeter loin de moi cette conduite passée et prenant sur moi-même, avec moi-même, dans l'intérieur de ma conscience, une détermination énergique. Rejeter au loin ce passé qui t'a dégradé de ta dignité d'homme de mérite et faire voir que si j'ai eu quelques moments d'oubli, si j'ai été entraîné par de mauvaises gens, par des têtes sans cervelle, par des hommes sans cœur qui flétrissaient ce beau nom d'ami, je puis encore par l'énergie de mon travail, par ma bonne conduite, par un désir sincère de devenir un homme de mérite, contenter et ma mère qui a tant souffert, et le général qui t'aime comme son fils, et ce frère qui guida tes premiers pas, qui séparé longtemps de toi par la nécessité de ton éducation, te voyait grandir avec orgueil, et aurait été si heureux de te présenter à tous ceux qu'il connaisse, qu'il estime, qu'il entoure d'une amitié dont chaque jour il reçoit des marques, comme un homme supérieur par sa bonne éducation, distingué par ses bonnes manières, éminent par sa capacité.
Où Baudelaire est-il donc allé ?
Vous me causez, mon cher Vatripon, le plus grand embarras. Comment voulez-vous qu'on donne des notes biographiques ? Voulez-vous mettre que je suis né à Paris en 1821, que j'ai fait plusieurs voyages dans les mers de l'Inde ? Je ne crois pas qu'on doive mettre ces choses-là.
Autre notice biographique.
Voyage dans l'Inde, première aventure, navire dématé. Maurice, île Bourbon, Malabar. Ceylan, Hindoustan, Cap. Promenades heureuses. Deuxième aventure, retour sur un navire sans vivre et coulant bas.
De Bruxelles, le 13 octobre 1864, à l'homme qui devait, alors, connaître le mieux sa vie, maître Ansel, Baudelaire déclare.
Moi qui ai commencé à faire connaissance avec l'eau et le ciel, à Bordeaux, à Bourbon, à Maurice, à Calcutta.
Mais à Calcutta, Baudelaire n'a jamais débarqué. Son voyage maritime de juin 41 à février 42, l'ayant mené de Bordeaux à l'île Maurice, puis à la Réunion, ensuite au Cap, pour retrouver enfin Bordeaux.
D'abord, il faut que vous sachiez que mon mari, le général Aupic, adorait Charles. Il voulait le voir arriver à une haute position sociale. Quelle stupéfaction pour nous, quand Charles s'est refusé à tout ce qu'on voulait faire pour lui. A voulu voler de ses propres ailes et être auteur. Quel désenchantement dans notre vie d'intérieur, si heureuse jusque-là. Quel chagrin. Nous avons eu alors la pensée, pour donner un autre cours à ses idées, et surtout pour rompre quelques relations mauvaises, de le faire voyager. Charles a été confié aux soins du capitaine Salis. Homme honorable, gai et beaucoup d'esprit, qui devait plaire à Charles et qui, effectivement, lui a plu. Au bout de très peu de temps, Charles est tombé dans des tristesses qui inquiétaient le capitaine, qui faisait tous ses efforts pour le distraire, sans pouvoir y parvenir. Il vivait dans un isolement complet, ne frayant pas avec les passagers, commerçants pour la plupart et officiers. S'il parlait, ce n'était que pour émettre le désir de retourner en France. Et un événement terrible de mer, tel que le capitaine Salis m'a écrit n'en avoir jamais vu dans sa longue carrière de marin, où ils purent presque toucher la mort du doigt, sans que Charles en fût démoralisé, cependant vint ajouter peut-être à son dégoût pour un voyage qui, dans ses idées, était sans but. Arrivé à Maurice, sa tristesse ne fit qu'augmenter. Là où tout était nouveau pour lui, il n'a rien vu. Rien qui éveillât la faculté d'observation qu'il possédait. Il voulait à tout prix partir pour retourner à Paris. Et que, s'il n'y avait pas moyen, il préférait rester à Maurice plutôt que de continuer ce voyage. Le capitaine, craignant qu'il ne fût atteint de cette maladie cruelle, la nostalgie, dont les effets sont parfois si funestes, l'a vivement engagé à l'accompagner à Saint-Denis. Et que, s'il persistait là à vouloir rentrer en France, il lui donnait sa parole qu'il lui en faciliterait les moyens. À Bourbon, il a déclaré, comme à Maurice, qu'il voulait partir. De sorte que M. Salis s'est entendu avec un capitaine du choix de Charles, qui s'embarquait pour Bordeaux, de l'emmener avec lui. Et voilà comme Charles nous est revenu au mois de février 1842. Oh, si Charles s'était laissé guider par son beau-père, sa carrière eût été bien différente. Il n'aurait pas laissé un nom dans la littérature, il est vrai. Mais nous aurions été tous trois plus heureux.
Parfum exotique. Quand les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux. Des hommes dont le corps est mince et vigoureux. Et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la voile marine, pendant que le parfum des vers tamariniers qui circulent dans l'air et m'enflent la narine se mêle dans mon âme au chant des mariniers.
Me voici revenu de ma longue promenade. Je ne rapporte pas un sou, et j'ai souvent manqué des choses nécessaires.